que gagne-t-on à devenir sage ? Alors je suis très contente, heureuse de commencer ce cycle, d'ouvrir l'année au Collège supérieur par cette question. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Bruno Roche, la philosophie est placée au cœur du Collège supérieur et la philosophie, étymologiquement, philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Donc, je crois qu'il n'y a pas de question plus fondamentale que celle-là, qui consiste à s'interroger sur la pertinence de ce projet. Faut-il aimer la sagesse ? Faut-il rechercher la sagesse ? La philosophie, Paul l'a suggéré, pose beaucoup de questions. Vous voyez, notre objectif, c'est de vous poser des problèmes. Mais Nietzsche le remarquait lui-même dans le premier paragraphe d'un de ses livres intitulé « Par-delà bien et mal ». Il se demandait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas lui retourner la question à la philosophie ? Que nous aussi, de notre côté, je le cite, nous apprenions de ce sphinx à questionner. Et qu'on la questionne, elle, la philosophie, qu'on lui demande de nous rendre des comptes. Et en interrogeant cet idéal, ce projet, la sagesse. Donc, que gagne-t-on à devenir sage ? Est-ce qu'il faut rechercher la sagesse ? Alors, je vous propose de partir d'une première définition de la sagesse que je préciserai, que je raffinerai. Mais partons de l'idée que le sage, c'est celui qui sait, versant théorique, mais c'est celui aussi, contrairement au savant, qui vit en fonction de ce qu'il sait. Alors, je crois que dans la sagesse, il y a une double difficulté. La première difficulté, c'est que la sagesse, si on s'y attarde un peu, commence d'abord par une expérience négative. Parce que devenir sage, c'est gagner en connaissance, c'est gagner en lucidité. Et donc, c'est commencer par perdre un certain nombre d'illusions. D'illusions sur nous-mêmes, sur le monde. Et on se demande finalement qui est le plus heureux du chat qui ronronne tranquillement sur son canapé sans se poser aucune question et du sage qui interroge. Parce que le chat qui ronronne sur votre canapé, eh bien, n'a ni mauvaise conscience, il colle parfaitement à lui-même, à ce qu'il vit. Et nous, malheureusement, l'esprit est une sorte de cadeau empoisonné. Eh bien, nous sommes toujours un peu en avant de nous-mêmes, en arrière de nous-mêmes, en train de regretter ce que nous avons fait, d'interroger. Camus disait « Commencer à penser, c'est commencer d'être miné. Commencer à penser, c'est commencer d'être miné. » Parce que justement, la pensée, la conscience, elle détruit cette douce adhésion qu'on a au monde, comme le chat ou l'enfant peuvent l'avoir. Donc, dans la sagesse, il y a d'abord cette expérience négative, celle qui consiste à découvrir un monde qui, eh bien, sera peut-être en tout point étranger à nos attentes, qui ne sera pas aussi juste, aussi beau, aussi ordonné que notre conscience le souhaiterait. Première difficulté. Et en ce sens, on peut se demander si l'imbécile heureux, comme on dit, n'est pas plus heureux que le sage. Parce qu'il a ce que peut-être le sage s'épuisera à chercher toute sa vie. Il a cette forme d'harmonie avec lui-même que l'on s'expose à perdre en perdant nos illusions. Donc la sagesse suppose tout d'abord une perte, un sacrifice, le sacrifice du rapport premier et naïf qu'on peut avoir au monde. Et donc la question que j'aimerais me poser ce soir, c'est si j'accepte ce que j'accepte de perdre dans un premier temps, vais-je le retrouver au bout du chemin ? C'est-à-dire cette perte de mes illusions sera-t-elle compensée ? Donc ça, ce sera ma première question qui part de cette première difficulté. La deuxième difficulté porte sur le contenu même de la sagesse. Si je vous racontais la vie des plus grands sages, en fait, je crois que ça ne vous ferait pas très envie. À commencer par Socrate, qui meurt injustement, condamné par les Athéniens. Si on prend les plus grands stoïciens, dont certains ont fini par se suicider, on se rend compte que la sagesse, c'est pas très sexy, comme on dit, et ça peut rebuter. Parce que, vous voyez, dans cette figure du sage impassible, autosuffisant, du sage capable de dire, comme Épicure, « la mort n'est rien », ou encore, je le cite, « la douleur est facile à supporter », ou encore, comme Épictète, j'y reviendrai à cette phrase inquiétante, Épictète dit « En serrant dans tes bras ton enfant ou ta femme, dis-toi, J'embrasse un être humain. S'ils viennent à mourir, tu n'en seras pas autrement bouleversé. » J'aime bien le « autrement ». Tu n'en seras pas autrement bouleversé. Et donc, le sage nous fait un peu froid dans le dos. Son idéal d'autosuffisance nous paraît à la fois surhumain et inhumain. Surhumain et inhumain. Et tout se passe comme s'il y avait une sorte de folie, finalement, dans la sagesse. Et comme si la sagesse était à la fois inatteignable et même pas forcément souhaitable, parce qu'elle hypothèque peut-être ce qu'il y a de plus précieux dans l'existence, ce qu'il y a de plus intense. Est-ce que la sagesse est certes un remède contre les difficultés de l'existence, mais est-ce que ce n'est pas un remède trop puissant qui finit par anesthésier l'existence ? Voilà, donc à partir de ces deux difficultés, vous voyez, la sagesse comme entreprise de connaissance qui eh bien, nous déniaise et du coup nous déçoit, et la sagesse comme idéal surhumain et inhumain, j'aimerais faire quelque part le bilan comptable de l'entreprise de la sagesse. Terme volontairement économique, parce que, vous voyez, la question que j'ai posée, c'est que gagne-t-on à devenir sage ? On sent qu'il y a dans la sagesse un effort, il y a un exercice, il ne s'agit pas d'être sage. Si en claquant des doigts, vous voyez, je pouvais sauter à pieds joints dans la sagesse, il n'y aurait pas de problème. Mais devenir sage suppose qu'il y ait un effort, qu'il y ait un apprentissage, une recherche, une mise en fait, une mise, et un sacrifice. Et donc, nous sommes en droit de nous demander quels sont finalement les gains de la sagesse. Et est-ce que, eh bien, ces gains sont à la hauteur de notre mise. Est-ce que, tout simplement, le jeu en vaut la chandelle ? Voilà. Alors, je vais procéder tout simplement en deux temps. Je vais explorer tout d'abord les promesses de la sagesse, ce que la sagesse nous promet. Et puis, je vais vous montrer ce que ces promesses peuvent avoir dans un deuxième temps d'inaccessible, voire de dangereux. Et donc, au cœur de mon propos, se trouvera la distinction à laquelle je veux tout de suite vous rendre sensible entre la sagesse et le salut. Historiquement, entre le 1er siècle après Jésus-Christ et, on va dire, jusqu'à ce que l'Empire romain devienne chrétien, deux propositions philosophiques, historiquement, ont coexisté. La sagesse grecque, et la proposition philosophique chrétienne, le salut. Voilà. Donc j'aimerais, au-delà de la question qu'on se pose ce soir, vous introduire à cette alternative historique. Alors comme on l'a dit dans notre présentation avec Paul sur la plaquette du Collège supérieur, la question philosophique, une question philosophique, c'est une question que tout le monde se pose, mais il y a quand même dans certaines époques, des questions qui se sont posées de manière plus urgente, et donc elles ont un enracinement un peu historique, ces questions. Donc j'aimerais, vu que c'est un cours, vous apprendre un peu quelque chose ce soir de cette distinction entre la sagesse et le salut. Et puis peut-être dans une conclusion, plus qu'une troisième partie, j'envisagerai une forme d'alternative, parce que gagne-t-on à devenir sage ? On imagine tout de suite qu'il y a plusieurs types de sagesse, que tout dépend du contenu que l'on se propose. Donc tout d'abord, les promesses de la sagesse. Très modestement, je commencerai par dire que la sagesse, le premier gain de la sagesse, c'est tout d'abord un gain de temps. La sagesse nous fait gagner du temps. La sagesse est le plus court chemin vers le bonheur. En fait, être sage, c'est un peu avoir un coup d'avance. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble une existence sans sagesse, ouvrez, ça apparaît à la même époque, ouvrez par exemple toutes les grandes tragédies grecques. Ouvrez Sophocle, ouvrez Euripide, ouvrez Eschyle, et vous comprendrez que le héros tragique, c'est celui justement qui est en retard sur son existence et qui est condamné à apprendre la sagesse quelque part à ses dépens. Alors, bien sûr, dans la tragédie grecque, le pauvre héros est accablé par des dieux pas toujours très bienveillants avec lui, qui le poussent à la faute, qui le poussent à la démesure. Mais souvent, son problème au héros tragique, c'est qu'il manque de lucidité. sur lui-même. Il s'aveugle sur sa propre situation. Par exemple, si on prend Antigone, son fils Aimon, le cœur, le devin Tirésias se relaient auprès de lui pour lui montrer que peut-être les dieux sont du côté d'Antigone, mais il ne veut rien écouter et l'emmure vivante. Et réalise, mais trop tard, son erreur. Trop tard, il court pour la délivrer, mais elle s'est déjà tuée. Son fils Aimon fera de même, et sa femme finira, elle aussi, par se tuer. Donc ces morts en cascade sont liées souvent au fait que le héros n'a pas été lucide à temps. Œdipe, au début d'Œdipe roi, condamne par avance le meurtrier de Laïos sans savoir que c'est lui-même. Et donc, il se verra, à la fin de la pièce, condamné par sa propre condamnation à quitter Thèbes. Voilà. Donc, le héros tragique, par son manque de lucidité, est toujours comme en retard sur lui-même. Et donc, il provoque l'irréparable, il provoque l'inéluctable et comprend trop tard ce qu'il fallait faire. Ce qui fait dire à Eschyle, au début de la pièce Agamemnon, ce qui pour moi est un petit peu le résumé de l'expérience tragique, donc le chœur chante la chose suivante: « Zeus a ouvert aux hommes les voies de la prudence en leur donnant pour loi souffrir pour comprendre, souffrir pour comprendre, quand en plein sommeil sous le regard du cœur sointe le douloureux remords, la sagesse en eux malgré eux pénètre. » La sagesse en eux malgré eux pénètre. Donc, si vous ne voulez pas rechercher la sagesse, en fait, le problème, c'est que la sagesse, s'imposera à vous, mais malgré vous. Et finalement, vous finirez par être sage, mais trop tard. Et entre-temps, vous aurez gâché votre vie. Parce que la sagesse, comme le dit très bien Eschyle, finit par entrer d'une manière ou l'autre en nous, tout simplement, avec le temps. Et c'est ainsi que se conclut Antigone. La sagesse est de beaucoup la première des conditions du bonheur, dit Antigone. Il ne faut jamais commettre d'impiété envers les dieux. Les orgueilleux voient leurs grands maux payés par les grands coups du sort, et ce n'est qu'avec les années qu'ils apprennent à être sages. Ce n'est qu'avec les années qu'ils apprennent à être sages. Voilà. Rechercher la sagesse, c'est chercher à inverser justement cette loi de la tragédie qui veut que l'on souffre pour comprendre, justement pour comprendre afin d'éviter de souffrir. Et c'est par exemple ce que nous montre Platon dans les dernières pages de la République. Platon a l'habitude de terminer ses textes par des mythes, souvent des mythes eschatologiques sur l'au-delà, les fins dernières. Et dans ce mythe, le mythe d'Er, d'Er le Pamphylien, Er, E-R, il raconte qu'Er est donc un soldat qui est laissé pour mort dans une bataille et qui a le privilège de voir ce qui se passe dans l'au-delà, de voir comment est-ce que comment cheminent les âmes des morts et voir comment elles se réincarnent. Et donc, R revient de l'au-delà en témoignant de ce qu'il a vu. Et au moment où les dieux proposent aux âmes de se réincarner, il raconte que Zeus propose tout un tas de vies, de modèles de vie qui sont présentés comme ça. Il y en a beaucoup plus que le nombre d'âmes, et donc chacun peut choisir son existence. Donc déjà on sent que Platon ne croit pas à l'idée de destin, que nous avons finalement une liberté dans le choix de notre une responsabilité dans le choix de notre condition. Et R raconte que en fait les hommes choisissent n'importe comment. Alors c'est délicat parce qu'il dit que ces vies sont emmêlées, on ne voit pas très bien. Il faudrait les dérouler pour voir, faire le juste calcul des biens et des maux, pour voir finalement quelle est la vie la plus sage, ou celle qui comporte le moins de souffrance. Mais R remarque que les hommes se précipitent. se précipitent, choisissent n'importe comment et généralement sont attirés par ce qui est le plus brillant, ce qui éblouit, et n'opèrent pas justement ce juste calcul, cette pesée des biens et des maux, ne sépare pas l'agréable de l'utile. Alors sauf un, Ulysse, qui choisit, nous dit R, une vie qui n'a rien d'éclatant, qui peut même être sembler un peu banale, mais qui est une vie ordinaire et qui est donc fidèle d'ailleurs à son caractère. Voilà, donc ce que veut nous montrer Platon, c'est qu'il n'y a peut-être pas d'hédonisme sans sagesse, sans art, et que la vie, l'existence ne supporte pas l'improvisation, l'impréparation, et qu'il faut apprendre à vivre. Il faut apprendre à vivre. La vie, ça ne se fait pas tout seul, ça ne s'improvise pas, il faut un art de vivre, et c'est la sagesse. Donc voilà pour le premier gain de la sagesse, modeste, voyez, gagner du temps, et finalement optimiser, on va dire, le plaisir, en visant ce qui est utile et non seulement ce qui est agréable. Deuxième gain possible, plus ambitieux, la sagesse se donne pour objectif de vaincre notre finitude. C'est une réponse au défi de la finitude. Elle ne nous propose pas une autre vie, elle ne nous propose pas un au-delà, mais elle nous propose de vivre cette vie-là au mieux. Alors, elle commence par poser le diagnostic suivant. Elle est une médecine de l'âme, la sagesse, et le mal n'est pas en soi la finitude. Tous les grands sages le diront. Le mal n'est pas en soi la finitude, mais c'est notre rapport à la finitude. Ce qui nous rend malheureux, ce n'est pas d'être fini, mais c'est notre désir d'infini. Ce qui nous rend malheureux, ce n'est pas d'être mortel, mais c'est de vouloir être immortel. Parce que, revenons à notre chat qui ronronne tranquillement sur son canapé. Il est enserré dans les mêmes limites que nous, voire pire. Mais il ne s'en révolte pas. Et c'est de là que vient notre malheur. Le malheur est toujours le résultat d'un déséquilibre. Le résultat du déséquilibre entre ce que je veux et ce que je peux. Entre ce que j'espère et ce qui m'est donné de vivre. Et finalement, celui dont les désirs n'excéderaient pas la réalité, eh bien, serait heureux. C'est ce que nous dit Rousseau. Resserre ton existence au-dedans de toi et tu ne seras plus misérable. Mesure le rayon de ta sphère et reste au centre comme l'insecte au milieu de sa toile et tu seras heureux. Donc le bonheur est toujours un rapport, est toujours une harmonie entre notre conscience et la réalité. Et tout le problème vient de notre conscience, de notre imagination, qui nous fait nous projeter systématiquement au-delà de ce qui est, au-delà de ce qui est possible, et donc le possible très vite excède le réel. Donc la conscience est responsable de cette errance qui fait qu'on ne se tient jamais à ce que l'on a, jamais à ce que l'on est, mais que l'on veut plus. Donc le premier diagnostic des philosophes, c'est de reconnaître que l'esprit est quelque sorte notre chute originelle. C'est lui qui nous fait vivre en désaccord avec le réel. À la racine du malaise humain, eh bien, se trouve ce par quoi l'homme est homme, c'est-à-dire l'âme. Et vous pouvez prendre toutes les sagesses antiques, toutes, elles disent la même chose. Je prends deux exemples, Épicure. Épicure, eh bien, nous dit « Tout le malheur de l'homme » vient de l'âme parce que c'est elle qui fait perdre de vue les certitudes immédiates et premières de la vie sensible. Et c'est elle qui nous nourrit de fausses inquiétudes, qui fait naître de fausses opinions sur la mort, sur les dieux, sur le désir ou encore sur la douleur. Et le bonheur deviendra possible si on sait tenir notre esprit en bride. Si on sait bander notre mémoire, si on sait contenir notre esprit. Parce qu'une juste compréhension des dieux, une juste compréhension de la mort, une juste compréhension de la nature du plaisir, eh bien, nous apprendra que, je pourrais revenir sur ces points si vous voulez tout à l'heure dans les questions, que la mort n'est rien, que les dieux ne sont pas à craindre, ou encore que le bonheur est à notre portée. Et les stoïciens font le même constat. Je cite Marc Aurèle, « L'âme de l'homme se couvre d'ignominie lorsqu'elle devient un abcès, une tumeur maladive sur l'harmonie du monde. » C'est l'âme hein, qui devient une tumeur, un abcès sur l'harmonie du monde qui est fautive. Donc, le combat de la sagesse, ça n'est pas d'abord un combat contre la mort, ça n'est pas d'abord un combat contre la contingence de l'existence, contre lesquelles, de toute façon, nous ne pouvons rien. Mais c'est un combat contre tout ce qui appauvrit et tout ce qui amenuise notre existence, à savoir nos peurs infondées. Et si les grandes sagesses antiques comprennent que la raison est un poison, elles comprennent aussi que la raison est le remède à ce poison. Parce que c'est la juste connaissance du réel qui justement nous permettra eh bien, de combattre nos angoisses, de remettre les choses à leur place. Voilà. Et donc la formule de la sagesse, je vais revenir souvent là, dans mon propos sur cette idée, c'est l'équation suivante. Alors c'est Nietzsche qui la résume ainsi, mais c'est assez juste. Savoir égale vertu égale bonheur. Savoir égale vertu égale bonheur. Si je connais le monde, moi-même, je sais quelle est ma place, je ne nourris pas de vains espoirs et je suis en mesure d'être heureux, je reviendrai. Et donc équation de la sagesse, savoir égale vertu égale bonheur. Et à partir de là, il y a un double pari audacieux. Vivre l'éternité dans le temps, donc quand je vous dis que la sagesse cherche à vaincre notre finitude, c'est cela qu'elle cherche tout d'abord, vivre l'éternité dans le temps. Et selon la formule d'Épictète, vivre et mourir comme un dieu, une formule un peu paradoxale, vivre et mourir comme un dieu, ou encore Épicure, vivre comme un dieu parmi les hommes. Voilà, et si vous prenez les plus grandes sagesses, vous sentez qu'elles cherchent à s'échapper de la condition humaine, soit par le haut, soit par le bas. Alors chez les cyniques, ça va être par le bas, l'animal, et même par les deux, hein, puisque Diogène disait qu'il voulait être un chien céleste. Donc on sent que le sage veut dépasser sa condition. Donc ce projet de la sagesse s'impose d'emblée comme étant une forme de gageure, comme elle recherche quelque part la quadrature du cercle, hein, vivre et mourir comme un dieu. Alors, je pourrais revenir dans nos questions tout à l'heure. Je prends qu'un seul exemple, le stoïcisme. Je vous laisse de côté l'épicurisme. Le stoïcisme, petit résumé rapide du stoïcisme, et le mot d'ordre du stoïcisme, donc Épictète, Marc Aurèle, Chrysippe, Sénèque, c'est vivre en accord avec la nature. Vivre en accord avec la nature, alors pas de contresens écologique, hein, vivre en accord avec la nature, c'est pas vivre en accord avec les petits oiseaux, c'est vivre en accord avec le cosmos qui est pour les stoïciens qui possède un ordre, qui procède d'une régularité qui est soutenue par une providence, par les dieux, qui est donc rationnel, déterminé, divin. Et c'est vivre en accord avec sa nature d'être rationnel. Voilà, donc il y a un premier présupposé hein, dans le stoïcisme, c'est que le cosmos est ordonné. Et le travail de l'homme, ce n'est pas dans ce cosmos ordonné et déjà déterminé de construire sa vie par ses projets, parce que, il mesure rapidement combien petite est la part de l'existence qu'il maîtrise. Le travail de l'homme, c'est de mesurer, de repérer ce qui dépend vraiment de lui. Et tout le malheur des hommes, constatent les stoïciens, vient du fait qu'ils recherchent avec passion à acquérir des biens qu'ils ne peuvent pas obtenir et à fuir des maux qui sont inévitables. Alors qu'une seule chose nous appartient, la manière dont nous vivons les événements. Pour un stoïcien, l'ensemble des biens extérieurs, maladie, santé, richesse, pauvreté, plaisir, douleur, beauté, laideur, gloire, honte, en gros, voilà résumé, tous les biens que l'on recherche, eh bien, ne dépendent pas de nous. Et donc c'est inutile de les rechercher. Et le sage, c'est celui qui ne place pas son bonheur dans ce qui ne dépend pas de lui, dans ce qui lui échappe. En revanche, il place son bonheur dans la seule chose qu'il maîtrise, son âme. Son âme, c'est-à-dire ses représentations et ses désirs. Donc il apprend à discipliner ses représentations parce que les stoïciens font un constat assez juste. Hein, trop souvent, ce sont nos représentations qui nous troublent plutôt que les événements en eux-mêmes. Et le sage apprend à contenir ses désirs en sachant vouloir ce qui est, vouloir ce qui arrive. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change de vouloir ce qui est si de toute façon le cours du monde est inchangé? Eh bien ça change que j'apprends à ne pas souffrir de ce qui est inéluctable. Parce que je me rends imperméable aux influences extérieures. Et j'apprends à habiter ce qui est vraiment mien. Par exemple, le temps. Remarquons que nous sommes toujours un peu en amont, en aval de nous-mêmes, que nous sommes souvent en proie à la nostalgie ou encore à l'espérance. Et du coup, nous errons dans des temps qui ne sont point nôtres, comme dit Pascal. Et donc nous ajournons le bonheur, soit nous nous rappelons un hypothétique âge d'or, soit nous anticipons sur un paradis à construire. Mais Marc Aurèle nous dit « Souviens-toi que chacun ne vit que dans le moment présent, dans l'instant. Le reste, c'est le passé ou un obscur avenir. Petite est donc l'étendue de la vie. » Petite est donc l'étendue de la vie. Donc voilà ce que ça change. J'apprends à habiter ce qui est vraiment mien et quelque part à être invulnérable. Parce que si je m'attache à ce qui ne dépend pas de moi, je risque de souffrir et d'être frustrée. Donc voilà pourquoi, je reviens à la citation terrible que j'ai lue en introduction, voilà pourquoi je dois, lorsque j'embrasse mon enfant, me dire que, ou ma femme, qu'ils sont mortels. Et comme cela, je n'en serais pas autrement troublée, parce que c'est l'ordre des choses qu'ils meurent. Et donc, il faut apprendre justement à l'accepter. Donc à partir de là, nous pouvons, je reviens à mes deux gageures, nous pouvons vivre l'éternité dans le temps. Parce que vivre dans l'instant, eh bien c'est dans un instant que rien ne relativise, ni le passé ni l'avenir. Eh bien c'est quelque part vivre l'éternité, vivre une forme d'absolu. Et puis, deuxième idée chez les stoïciens, à partir du moment où nous participons à l'éternité du cosmos, nous ne mourrons pas vraiment. Et puis, vivre comme un dieu parmi les hommes, parce que le sage est autosuffisant. Et c'est ça le modèle du dieu, c'est cette autosuffisance. Voilà, donc il y a ce double pari audacieux dans la sagesse. Mais, pourtant, Épictète lui-même semble douter que cela soit possible. Épictète, dans un célèbre passage des Entretiens, nous dit « Je vois bien des hommes qui débitent les maximes des stoïciens, mais je ne vois pas de stoïciens. » Montre-moi donc un stoïcien, je n'en demande qu'un. Un stoïcien, c'est-à-dire un homme qui, dans la maladie, se trouve heureux, qui, dans le danger, se trouve heureux, qui, mourant, se trouve heureux, qui, méprisé et calomnié, se trouve heureux. Si tu peux me montrer ce stoïcien parfait et achevé, au moins montre-moi un qui commence à l'être. Qui commence à l'être. Donc, il semble avouer, il semble douter de la possibilité même de ce projet. Et donc, c'est là la faiblesse de cette entreprise de sagesse, c'est que si elle diagnostique très bien l'origine des maux humains, si elle fixe un idéal, si elle propose une solution crédible, elle oublie de s'interroger sur les moyens. Et donc, à quoi cela sert-il de nous proposer un horizon inaccessible ? Est-ce que l'on ne va pas s'épuiser quelque part en vain ? Et donc j'aimerais, dans ce deuxième temps, maintenant qu'on sait un peu plus à quoi, quel est le contenu de la sagesse, j'aimerais formuler quelques critiques et montrer ce que ces promesses ont de captieux. Tout d'abord, la sagesse est, première idée, un idéal peut-être hors de portée. Parce que j'aimerais revenir sur la formule qui résume la sagesse, l'équation « savoir égale vertu » égale bonheur, savoir égale vertu égale bonheur. Donc cette équation, je la développe un peu plus, suppose que c'est faute de connaissance, faute de savoir, que souvent nous faisons les mauvais choix et que nous nous rendons malheureux. Et que donc la connaissance pourrait dissiper le mal, la souffrance, et nous apprendre à aimer ce qui est et nous rendre heureux. Mais je crois que toutes les parties de cette équation posent problème. Est-ce que savoir égale vertu ? Premier point. Ensuite, est-ce que vertu égale bonheur ? Savoir égale vertu. N'y a-t-il pas un gouffre entre le fait de savoir ce qui est bon et le faire ? La raison me montre le bien, me montre ce qui est vrai, mais me donne-t-elle l'élan pour le faire ? Et c'est là la difficulté. Le sage place peut-être une confiance excessive dans les pouvoirs de la raison. La raison émet des jugements, mais il faudrait qu'elle provoque un mouvement en nous, que ce qu'elle me montre, elle me donne la possibilité de le faire. Et bien souvent, le passionné ou le personnage tragique, c'est pas simplement quelqu'un qui se trompe, mais c'est quelqu'un qui aime ce qui lui nuit, qui aime ce qui est mauvais, et tout en le sachant. Donc, la première difficulté, c'est que la sagesse ne prend peut-être pas en compte les résistances de notre volonté et de notre corps même. Et c'est pour ça qu'elle est peut-être prétentieuse. Alors, c'est la critique que formule Pascal, et je vous demanderai de prendre l'un des textes qu'on va lire. Je ne vais peut-être pas lire tous les textes, mais le premier texte que j'ai photocopié, un texte de Pascal. Alors, donc, qui est un entretien avec Monsieur de Sacy. Ce texte n'est pas de la main même, de la plume de Pascal, mais d'un secrétaire qui a assisté à l'entretien, le supposé entretien entre Pascal et Monsieur de Sacy, donc un témoin. Et on juge ce texte fiable, fidèle à ce que Pascal aurait pu prononcer, en tout cas ce qu'il pense. Donc il faut vous remettre un peu dans le contexte. Pascal est un tout jeune converti. Ce texte date de 1655. On date sa conversion, sa nuit de feu, où il a une certitude de l'existence de Dieu, 1654. Donc c'est un tout jeune converti qui vient voir son directeur de conscience, M. de Sacy, pour s'entretenir avec lui. Et dans cet entretien, il va expliquer, j'en ai photocopié qu'une petite partie, il va expliquer comment il en est venu au christianisme, comment il en est venu à la révélation chrétienne, en passant par la philosophie, par deux lectures importantes pour lui, les stoïciens et Montaigne, on ne parlera pas de Montaigne, et il montre de manière très subtile comment la philosophie l'a conduit d'elle-même, finalement, à la théologie. Comment la théologie lui a permis de sortir des contradictions de la philosophie. Alors, je lis la première partie de l'entretien qui porte sur Épictète. Monsieur Pascal lui dit que ses livres les plus ordinaires avaient été Épictète et Montaigne, et il lui fit de grands éloges de ces deux esprits. Monsieur de Sacy, qui avait toujours cru devoir peu lire ses auteurs, pria Monsieur Pascal de lui en parler à fond. Épictète, lui dit-il, est un des philosophes du monde qui ait mieux connu les devoirs de l'homme. Il veut avant toute chose qu'il regarde Dieu comme son principal objet. Alors, Dieu, chez les stoïciens, c'est comme le cosmos. Qu'il soit persuadé qu'il gouverne tout avec justice, qu'il se soumette à lui de bon cœur et qu'il le suive volontairement en tout, comme ne faisant rien qu'avec une très grande sagesse. Qu'ainsi, cette disposition arrêtera toutes les plaintes et tous les murmures et préparera son esprit à souffrir paisiblement tous les événements les plus fâcheux. « Ne dites jamais, dit-il, j'ai perdu cela. Dites plutôt, je l'ai rendu. Mon fils est mort, je l'ai rendu. Ma femme est morte, je l'ai rendu. Ainsi des biens et de tout le reste. Mais celui qui me lote est un méchant homme, dites-vous. De quoi vous mettez-vous en peine? Par qui celui qui vous l'a prêté vous le redemande? Pendant qu'il vous en permet l'usage, ayez-en soin comme d'un bien qui appartient à autrui, comme un homme qui fait voyage se regarde dans une hôtellerie. Vous ne devez pas, dit-il, désirer que ces choses qui se font se fassent comme vous le voulez, mais vous devez vouloir qu'elles se fassent comme elles se font. Souvenez-vous, dit-il ailleurs, que vous êtes ici comme un acteur, donc ça c'est une image qu'il reprend vraiment à Épictète, et que vous jouez le personnage d'une comédie tel qu'il plaît au maître de vous le donner. S'il vous le donne court, jouez le court, s'il vous le donne long, jouez le long, s'il veut que vous contrefassiez le gueux, vous le devez faire avec toute la naïveté qui vous sera possible, ainsi du reste. C'est votre fait de jouer bien le personnage qui vous est donné, mais de le choisir, c'est le fait d'un autre. Ayez tous les jours devant les yeux la mort et les maux qui semblent les plus insupportables, et jamais vous ne penserez rien de bas et ne désirerez rien avec excès. » Voilà, alors, premier point, Pascal est tout à fait d'accord avec ce que propose Épictète. La sagesse a bien connu les devoirs de l'homme. La sagesse stoïcienne nous remet à notre place, elle nous montre que nous ne sommes qu'une petite partie du monde. Voilà, que tout est providence, et les chrétiens diront « tout est grâce », comme le curé de campagne dans Bernanos. Donc on voit qu'il y a une proximité là entre les deux. Mais c'est ensuite que les choses se corsent. Il montre aussi en mille manières ce que doit faire l'homme. Il veut qu'il soit humble, il veut qu'il cache ses bonnes résolutions, surtout dans les commencements, et qu'il les accomplisse en secret. Rien ne les ruine davantage que les produire. Il ne se lasse point de répéter que toute l'étude et le désir de l'homme doit être de reconnaître la volonté de Dieu et de la suivre. Voilà, monsieur, dit monsieur Pascal à monsieur de Sacy, les lumières de ce grand esprit qui a si bien connu les devoirs de l'homme. J'ose dire qu'il mériterait d'être adoré s'il avait aussi bien connu son impuissance, puisqu'il fallait être Dieu pour apprendre l'un et l'autre aux hommes. Aussi, comme il était terre et cendre, après avoir si bien compris ce qu'on doit, voilà comment il se perd dans la présomption de ce qu'on peut. Il dit que Dieu a donné à l'homme les moyens de s'acquitter de toutes ses obligations, que ces moyens sont en notre puissance, qu'il faut chercher la félicité par les choses qui sont en notre pouvoir, puisque Dieu nous les a donnés à cette fin, qu'il faut voir ce qu'il y a en nous de libre, que les biens, la vie, l'estime ne sont pas en notre puissance et ne mènent donc pas à Dieu, mais que l'esprit ne peut être forcé de croire ce qu'il sait être faux, ni la volonté d'aimer ce qu'elle sait qui la rend malheureuse, puisque ces deux puissances sont donc libres, et que c'est par elles que nous pouvons nous rendre parfaits. Que l'homme peut, par ses puissances, parfaitement connaître Dieu, l'aimer, lui obéir, lui plaire, se guérir de tous ses vices, acquérir toutes les vertus, se rendre saint ainsi et compagnon de Dieu. Ces principes d'une superbe diabolique le conduisent à d'autres erreurs, comme que l'âme est une portion de la substance divine, que la douleur et la mort ne sont pas des maux, qu'on peut se tuer quand on est si persécuté qu'on croit que Dieu appelle, et d'autres, le fameux suicide stoïcien. Alors, dans cette deuxième partie, Pascal attire notre attention sur l'impuissance de l'homme, ce que les stoïciens n'ont pas vu. C'est que l'homme est faible. Et que, premièrement, voir le vrai et l'accepter, ce n'est pas la même chose. Voir le vrai et l'accepter, ce n'est pas la même chose. Je puis être convaincu de la vérité et pourtant ne pas être persuadé. Et puis, deuxième chose, ils ont cru que la volonté était libre. Alors que souvent, elle est liée. Liée à quoi ? Liée au corps, liée au désir. Et comme dit l'apôtre Paul, eh bien, le bien que je veux, eh bien, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Et les stoïciens n'ont pas mesuré combien il y a dans l'homme de résistance, combien notre raison et notre volonté ne sont pas toutes puissantes, combien elles sont, dit le texte, liées. Et ce lien, justement, c'est ce que les chrétiens appelleront le péché, concept inconnu des Grecs. Le péché nous dit que ce que nous voulons, nous ne le pouvons peut-être pas. Donc, première difficulté, voyez, le passage du savoir à la vertu est déjà problématique. Voir le bien, ce n'est pas forcément être en mesure de l'accomplir. Et le passage de la vertu au bonheur, deuxième partie de l'équation de la sagesse, vertu-bonheur, est lui aussi problématique. Parce que Pascal remarque que le stoïcisme repose sur un certain nombre de mensonges existentiels. Personne ne peut dire de manière crédible « la mort n'est rien ». Voilà, et ça se passe de justification. Parce que le mal et la souffrance continuent d'exister. Et d'autre part, Pascal remarque, et ça sera l'objet du deuxième texte plus court, que nous ne voulons pas de ce bonheur fait de repos, d'impassibilité, d'indifférence. En fait, ça ne nous rend pas heureux. Et on constate que l'homme est ainsi fait qu'il ne sait pas se recueillir, qu'il ne sait pas vivre l'instant présent. Qu'il est toujours un peu en arrière de lui, en train de se projeter, au contraire. Et c'est ce que nous dit le deuxième texte. Un extrait des Pensées, philosophe. « Nous sommes pleins de choses qui nous jettent au dehors. Et notre instinct nous fait sentir qu'il faut chercher notre bonheur au dehors. Nos passions nous poussent au dehors, quand même les objets ne s'offriraient pas eux pour les exciter. Les objets du dehors nous tentent d'eux-mêmes et nous appellent, quand même nous n'y pensons pas. Et ainsi, les philosophes ont beau dire, j'aime beaucoup cette phrase, les philosophes ont beau dire, rentrez en vous-même, vous y trouverez votre bien, on ne les croit pas. Et ceux qui les croient sont les plus vides et les plus sots. » Voilà, nous ne sommes pas faits pour le repos. Et dans les Pensées, Pascal oppose systématiquement le bonheur des philosophes, donc le titre de l'extrait, et le bonheur du divertissement. Je pense que vous avez tous en tête ces textes sur le divertissement, un homme qui passe sa journée à courir après un lièvre, ou alors qui part à la guerre, qui court sur les mers, qui s'affaire, qui a des projets. Eh bien, le bonheur du divertissement, c'est un bonheur, résume Pascal, du dehors, où on va chercher sont bien en dehors de nous-mêmes. Et d'ailleurs, la très grande pensée sur le divertissement, la très belle pensée sur le divertissement, commence par ce constat, c'est que personne ne sait se tenir en repos seul dans une chambre. Personne ne sait s'ennuyer. Parce que nous sommes systématiquement appelés comme au dehors de nous-mêmes. Au contraire, les philosophes nous proposent un bonheur du dedans. Mais quelque part, nous dit Pascal, ils font violence à la nature humaine. Nous ne sommes pas faits pour ce bonheur-là. Et ça ne fonctionne pas. Et il accorde beaucoup plus de crédit, beaucoup plus de sérieux au divertissement. Le divertissement, on voit plus juste. Et le désir doit être pris au sérieux. Vous voyez, dans le désir, je vais chercher quelque chose d'autre que moi. Même la vanité doit être prise au sérieux. Vous voyez, dans la vanité, on essaye de se faire aimer des autres. On essaye de se faire valoir auprès des autres. C'est misérable. Mais en fait, dit Pascal, le vaniteux a compris qu'il ne vaut pas par lui-même et qu'il ne peut s'aimer que par le détour de l'autre, que par l'intermédiaire de l'autre. Et c'est quelque part le signe lointain du fait qu'avant, il s'aimait en Dieu. Donc, ne nous moquons pas finalement de lui, parce qu'il est peut-être plus près de la vérité que le sage qui prétend être autosuffisant. Donc, si Pascal est très dur envers l'entreprise de sagesse, c'est parce qu'elle fait violence à la nature humaine, premièrement, et donc elle est condamnée à être improductive. Elle exige que l'homme devienne un dieu. Et donc elle lui propose une aventure hors de portée. Et puis la deuxième idée qu'on trouvait à la fin de l'entretien avec M. de Sacy, c'est qu'il y a dans cette présomption non seulement quelque chose d'irréaliste, mais quelque chose de coupable. Parce qu'il y a une forme d'orgueil. Le sage vise une autosuffisance qui est le signe qu'il croit s'égaler à Dieu. Donc ce que les stoïciens érigent en vertu est peut-être un péché, nous dit Pascal en quelque sorte. Et donc c'est là que la sagesse va venir se heurter à un projet concurrent. Alors là, Pascal, on est au XVIIe siècle, mais avant lui, il y a eu saint Augustin, saint Justin, etc. Va venir se heurter à un projet concurrent qui est celui du salut. Sagesse, salut. La sagesse, si vous voulez, c'est un idéal de perfectionnement de soi par soi, par nos propres facultés et en s'appuyant sur une raison qui puise dans ses propres ressources. Le salut suppose déjà une délivrance, une libération. Donc, commence par reconnaître que nous sommes liés, que nous sommes impuissants, et donc incapables d'arriver au bien par nous-mêmes. Et que nos capacités ont besoin d'être restaurées, ont besoin d'être réparées, et que cela ne peut venir que d'un autre. De même que notre raison doit être éclairée par une révélation. Saint Augustin dira, il faut que la foi précède la raison. Si vous ne croyez, vous ne comprendrez pas. Donc, voilà comment Pascal argumente face à M. de Sacy. Finalement, déçu par la sagesse, impossible, inatteignable et même orgueilleuse, il s'est tourné vers cette proposition qu'est la théologie et le salut. Et c'est bien ce que l'on perçoit dans un texte beaucoup plus ancien de l'apôtre Paul. Alors je vais le lire rapidement, je pense que je n'aurai pas le temps d'en lire d'autres, mais celui-ci est très important. En tout cas, sur ce sujet, je ne pouvais pas ne pas en parler. L'apôtre Paul, c'est le premier qui va avoir à cœur de situer la proposition philosophique du christianisme par rapport à la philosophie grecque, par rapport à l'hellénisme. On se souvient tous de son discours sur l'aréopage. Il va sur l'aréopage et là, il semble dire aux philosophes grecs, aux Grecs, il semble dire qu'il y a une continuité entre le christianisme et la philosophie grecque. Il remarque qu'il y a un temple au dieu inconnu et il leur dit, ce dieu inconnu que vous adorez, moi je viens vous l'annoncer. Que les Grecs finalement ont cherché dans la bonne direction, la vérité, mais seule la révélation peut finalement les éclairer. Mais dans l'épître aux Corinthiens, le texte qu'on va lire maintenant, il montre à quel point la proposition du salut est différente de celle de la sagesse. Combien il y a rupture entre les deux démarches et combien le christianisme n'est pas une philosophie qui vient s'ajouter à d'autres philosophies déjà existantes, mais combien le christianisme est une philosophie qui rend quelque part inutile la philosophie. Alors, je lis le texte qui est très connu. Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, donc des philosophes, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Donc vous voyez, il joue sans cesse sur le renversement sagesse-folie, sagesse de Dieu, folie des hommes. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés juifs et grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu, c'est le verset le plus célèbre, est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Aussi bien, frères, considérez votre appel, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés, mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort, ce qui dans le monde est sans naissance, ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce n'est pas pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair, ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Alors je m'arrête là pour dire en gros quel est l'enjeu de ce texte. Alors, un texte immense. En gros, Paul essaye de montrer que le christianisme, le Christ, la bonne nouvelle, eh bien, se fraye un chemin entre, d'un côté, le judaïsme. Le juif cherche, par l'observance de rites, par la prière, par le respect de la loi, eh bien, le salut. Et il attend un Messie puissant, fort. Et il ne se retrouve pas dans la proposition de Paul, puisque le Christ prend le parti des sangs. Vous voyez, des sans naissance, des sans force. Il attend un sauveur, un roi qui amène la paix, et il ne se retrouve pas dans ce message-là. Les Grecs attendent. Le Grec, c'est l'homme de la recherche, du questionnement, de la vérité, attend poursuit un souci d'intelligibilité. Et lui aussi, il est déçu. Parce que ce que lui annonce Paul, c'est absurde. Un Dieu qui s'incarne, l'infini qui devient fini, un Dieu qui meurt, qui ressuscite, ça n'a absolument aucun sens. Et toutes les catégories grecques, de la raison grecque, sont un peu mises sans dessus-dessous. Et donc, Paul veut montrer que, justement, l'apparente sagesse grecque n'est que folie, parce qu'elle est, comme nous l'a dit Pascal, prétentieuse, et que l'apparente folie de Dieu, l'infini qui devient fini, cet enfant qui est Dieu, eh bien, est plus sage, est supérieur. Et donc, il renverse complètement les catégories existantes, ce qui fait que ni les Juifs ni les Grecs ne se reconnaissent dans ce qu'il propose. Donc, on comprend que la démarche du salut, contrairement à la sagesse, est inverse. Là où dans la sagesse, l'homme s'élève comme à bout de force jusqu'à Dieu, dans le salut, c'est Dieu qui s'abaisse jusqu'à l'homme et qui vient habiter sa misère. Et c'est comme ça qu'il peut vaincre ses peurs. C'est parce que le Christ a bien voulu se faire homme, qu'il a partagé nos souffrances, qu'il a partagé nos angoisses, qu'il peut les comprendre et nous en relever. Donc vous voyez, le mouvement est inverse. Dans le salut, dans la sagesse, nous escaladons le ciel par nos facultés. Dans le salut, c'est le ciel qui vient à nous et qui se met à notre portée. Voilà. Donc ça, c'est la première critique que je voulais formuler. Je vais aller vite pour pouvoir conclure. La première critique que je voulais formuler, c'est qu'il y a dans l'idéal de sagesse, voyez, une sorte de présomption, de prétention qui rend cet horizon inaccessible. Et deuxième idée, que je résume rapidement, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup la développer, l'idéal de la sagesse est lui-même contestable. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir combien la sagesse a des ennemis très différents. Bruno Roche me faisait remarquer en rentrant que c'était un peu curieux de mettre sur la même page un texte de l'apôtre Paul et de Nietzsche, que je n'aurai pas le temps de lire, mais que je vous demande de lire chez vous. Enfin, vous lirez ou vous ne lirez pas, qu'importe. Je me crois encore en cours. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est marrant que des penseurs très différents, finalement Pascal, le libertin, Paul et Nietzsche, se retrouvent sur un point qui est cette critique de la sagesse. Parce que si l'idéal de sagesse ne nous fait pas envie souvent, c'est aussi parce qu'on sent que la sagesse mutile peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans l'existence. Parce que vouloir éviter la souffrance, vouloir éviter la frustration, c'est perdre parfois ce qui fait la saveur même de l'existence. Il y a un très grand texte de Platon où Socrate dialogue avec un personnage qui a un fort caractère qui s'appelle Calliclès. Et Calliclès lui dit, mais moi, pour ton style de vie, de tempérance, de maîtrise des passions, ça ne m'intéresse pas, on dirait que c'est la vie d'une pierre. La vie d'une pierre. Socrate utilise cette image, dit le sage a un tonneau bien rempli. Au contraire, l'insensé passe sa vie à désirer, à remplir un tonneau, sans être jamais content. Et donc il lui dit, il faudrait que tu aies un tonneau plein. Et Galiclès lui dit, mais moi ça ne m'intéresse pas, ça c'est la vie d'une pierre. Et quelque part il a raison. Parce que la sagesse, en voulant éloigner la frustration, en voulant éloigner le désir, eh bien peut-être interrompt le mouvement même de la vie. La vie qui est justement déséquilibre, passage. Hein, dans l'existence, nous risquons le déséquilibre pour souvent s'enrichir. De même que la frustration est intéressante. Parce que c'est souvent la frustration, l'attente, qui donne du prix aux choses. Dernier point important. La sagesse méprise toute forme d'attachement. L'attachement, c'est toujours ce qui nous fragilise. Et c'est pour cela qu'Épictète conseille à son lecteur, lorsqu'il embrasse son fils, de se rappeler qu'il est mortel, lorsqu'il embrasse sa femme, de se rappeler qu'elle peut mourir. Parce qu'effectivement, s'attacher, c'est être vulnérable. La mort est séparation, l'amour est attachement, et ça ne va pas ensemble. Et donc, aimer, c'est s'exposer à être déçu. Et quel mal, nous dit-il, y a-t-il à murmurer entre ses dents tout en embrassant ton enfant, demain il mourra, ou à dire de ton ami, demain toi et moi nous quitterons le pays et nous ne nous verrons plus. C'est quand même étrange de dire ça à un ami, nous ne nous verrons plus. Et c'est cela qui est contestable dans l'entreprise de sagesse, parce que certes les liens traduisent une forme de dépendance, le risque d'une souffrance, aimer c'est s'exposer, on n'est plus dans la maîtrise, mais en même temps c'est ce qu'il y a de plus riche dans l'existence. Et on voit mal pourquoi on aurait à se décharger de ce fardeau-là, du fardeau qui, finalement, fait tout le prix de l'existence. Et c'est un petit peu la critique de Nietzsche dans le dernier texte. Nietzsche montre que la sagesse est une sorte de médicament trop puissant, un médicament qui manque de subtilité, qui, en voulant éloigner tout ce qui nous fait souffrir, finit par anesthésier la vie, finit par l'amputer de ce qu'elle a de plus précieux. Et il dit que c'est une solution finalement un peu radicale. On ampute l'existence de tout ce qui peut nous frustrer. Et que finalement, le sage est une sorte de démasculé, un homme domestiqué. Et quelque part, les tragiques pour Nietzsche, les tragiques voyaient plus juste. La tragédie, elle perçoit mieux les contradictions de l'existence, elle assume le tragique de la vie, et elle est peut-être plus proche de la vérité et même du bonheur, puisque la tragédie donne lieu aussi à une fête autour du culte de Dionysos. Voilà, donc pour conclure mon bilan critique de la sagesse, si je résume mon propos et que je vous propose une réponse, que gagne-t-on à devenir sage ? Je dirais que la sagesse est un idéal inaccessible et excessif. Premier point. Mais peut-être qu'on pourrait prendre en compte ses limites pour poser les fondements d'une autre sagesse. D'une sagesse qui ne soit pas la sagesse des Grecs, une sagesse qui est totalement dans la maîtrise, dans l'autosuffisance. Parce que je ne voudrais pas que vous sortiez de cette conférence en imaginant que je fais l'éloge de l'imprudence, de l'imprévoyance, de l'improvisation, de l'incohérence ou encore de l'ignorance. Vous voyez, critiquer la sagesse ne revient pas à faire de l'ignorance un idéal. Ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il y a une volonté trouble dans le projet de la sagesse et qu'on pourrait imaginer une sagesse qui ne nie pas la part de souffrance, mais aussi la part de surprise qui est nécessaire à toute existence. Et c'est une manière peut-être de revenir à cette idée de salut d'une manière un petit peu plus profane. Parce que, un peu comme les Grecs, mais d'une manière différente, nous sommes fascinés par cet idéal de maîtrise. Et souvent, nous construisons notre vie à partir de cette équation, savoir égale vertu égale bonheur. Donc c'est pour ça que nous nous précipitons, enfin, pas vous je suppose, mais certains, se précipitent à la FNAC, acheter des manuels pour réussir tout un tas de choses, réussir son mariage, réussir l'éducation de ses enfants, réussir son divorce, j'ai vu, réussir des choses improbables. Et vous voyez, on est quelque part hanté par cette équation, savoir égale vertu égale bonheur, on a l'impression que en planifiant, en calculant, en ordonnant, eh bien, tout, même notre vie intime, même notre vie sentimentale, on parviendra à être heureux. Et quelque part, hein, quand je... les études sont aussi organisées comme ça, regardez la place que prennent les maths dans les sélections. Pourquoi est-ce que les gens qui sont bons en maths eh bien, seraient plus aptes à prendre des décisions et on est quelque part victime de cette équation savoir égale vertu égale bonheur. Et donc le risque qu'on prend en voulant envoyer à la manière de cette sagesse construire sa vie, réussir sa vie, par un ensemble de méthodes, de recettes, le risque que l'on prend c'est de fabriquer son existence. De fabriquer son existence, une existence que l'on maîtrise, qui est le résultat de ses projets. Et fabriquer son existence comme on fabrique un gâteau où partez d'une recette, d'ingrédients. Alors, on est plus ou moins bon cuisinier, mais on peut maîtriser ce processus. Et justement, l'existence n'est pas une fabrication, l'existence est une création. Alors ça, c'est une distinction conceptuelle assez familière des philosophes. Fabriquer, vous voyez, c'est un processus que l'on peut maîtriser de bout en bout. On a un plan, on a des outils, on a une matière première, et on met à exécution ce plan, et le résultat est censé être à peu près conforme au plan. D'ailleurs, on peut reprendre les plans d'un autre et refaire. Créer, c'est différent. Créer, vous aurez beau avoir les croquis de la chapelle Sixtine ou les esquisses, vous n'arriverez jamais à la refaire. Précisément parce que dans toute création, il y a une part de nouveauté. Il y a une part d'imprévu, comme dans l'existence. Et donc l'existence est plus proche de la création que de la fabrication. Et remarquez que nos plus grands moments de joie, nos plus grands moments de bonheur ne sont pas des moments... Ne sont pas les moments où l'on a réussi à atteindre un objectif. Généralement, ce sont au contraire, le moment où on réussit à réaliser quelque chose, on est à la fois content et déçu. On arrive à une sorte de sommet et on se dit « Ah, ce n'est que ça ». J'aime beaucoup la phrase de Luc Ferry. Luc Ferry dit « Rien de pire que l'échec, sinon la réussite quand elle ne nous comble pas ». Parce que le plaisir qu'on recherche, le plaisir que l'on fabrique, le plaisir que l'on construit à la force de nos projets, à la force de nos poignets, eh bien, a un goût un peu laborieux. Et remarquez que les plus grands moments de joie, de bonheur dans l'existence, qui nous amèneront à formuler un autre type de sagesse, sont des moments souvent de grâce. où l'on vit quelque chose de plus que ce que l'on s'attendait à vivre. Je prends juste un exemple, la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant, vous avez beau lire tous les manuels, vous avez beau lire toutes les, vous avez vous y préparer, toutes les techniques, ça ne se passe jamais comme prévu. Tout ce que vous projetiez, tout ce que vous imaginez, en fait, s'avère assez peu pertinent et généralement, il y a beaucoup plus à vivre que ce que vous pensiez vivre. Et donc, les moments de bonheur sont ces moments, vous voyez, où le réel souvent excède le possible, où nous ne sommes pas dans la maîtrise, justement, contrairement à ce que le sage voudrait nous proposer. Où nous ne sommes pas dans... où nous vivons autre chose que ce que nous avions prévu de vivre. Toute vraie joie est une forme de surprise. Elle est donc accueillie, plus que recherchée. Et donc, pour conclure, j'aimerais arriver à définir un autre type de sagesse qui n'annule pas complètement ce que les Grecs proposent. Bien sûr que l'on gagne du temps, bien sûr que l'on évite un certain nombre de déconvenues, mais il faudrait aussi que cette forme de sagesse soit attentif à tout ce qui déborde et décale un petit peu nos projets. Et pour ça, il faudrait, comme le dit Pascal, que l'orgueil crève et que nous renoncions à tout maîtriser. Et c'est une manière, vous voyez, de revenir d'un point de vue un peu plus profane à l'idée de salut. Parce que dans cette sagesse-là, on reconnaît que l'existence n'est pas totalement construite par nos projets, par nos efforts, mais qu'en partie, cette existence, nous la recevons. Parce que d'abord, nous l'avons reçue, la vie, on nous l'a donnée, et parce qu'à chaque instant, on la reçoit des autres, des événements. Et donc, il faudrait savoir maintenir une certaine forme d'ouverture, d'abandon, qui nous rende attentifs à la part d'imprévu qu'il peut y avoir dans l'existence, et justement que le sage peut laisser quelque part filer, laisser s'échapper.